Chapitre 16. Bonheur domestique. Lady Anne Percival reçut Belinda avec une franchise et une bienveillance qui firent un bien réel à son esprit agité, à son cœur affligé. « Je crains, lui dit Belinda, que vous ne me trouviez capricieuse de profiter ainsi tout à coup de vos offres après les avoir refusées si souvent. » « Vous vous rendez à discrétion, répondit Lady Anne, lorsque je désespérais d'obtenir ce que je désirais avec ardeur et ce qui me fait tant de plaisir. La seule condition que je prétends vous imposer, c'est de rester à Oakley Park tant que ce séjour vous sera agréable. Il est difficile de décider lequel a tort, de celui qui s'ennuie ou de celui qui ennuie. Lorsque cette question s'élève entre deux amis, je crois plus prudent d'éviter la discussion. » Lady Anne ne pouvait pas douter qu'il ne se fût passé quelque chose d'extraordinaire entre Lady de la Cour et Belinda, mais elle sut retenir sa curiosité. Son exemple prévalut sur Mistress Margaretta de la Cour qui dînait avec elle, et Belinda n'eut à redouter aucune question embarrassante. Les préjugés que cette dame avait conçus contre notre héroïne comme nièce de Mistress Stanhope avaient été dernièrement vaincus par sa conduite parfaite envers la petite Hélène et par l'amitié que Belinda lui témoignait. « Madame, dit Mistress de la Cour en adressant la parole à Miss Portman avec une politesse recherchée, permettez-moi, comme la plus proche parente de Lord de la Cour, de vous exprimer toute la reconnaissance que vos bons procédés m'ont inspirée. « Ma nièce ne m'a pas laissé ignorer combien vous vous serviez de votre influence sur l'esprit de Lady de la Cour pour le bonheur de sa famille. Ma petite Hélène sent bien les obligations qu'elle vous doit, et je me réjouis de trouver l'occasion d'être l'interprète de ma famille auprès de Miss Portman. Je sais qu'elle trouve sa récompense dans son cœur, les éloges du monde doivent être peu de choses pour elle. Cependant, il mérite d'être remarqué comme un hommage à la vérité, et pour la singularité du fait, car il est bien rare que le monde soit juste envers une aussi belle et une aussi jeune femme que Miss Portman. Il faut qu'elle se soit conduite avec une grande prudence, dit Lady Anne, car à son âge, il est difficile d'éviter les traits de l'envie. Belinda remarqua, avec un plaisir égal à sa surprise, que ses louanges étaient dites naturellement, et que l'histoire atroce dont elle craignait la publicité n'était point parvenue jusqu'aux oreilles de Mistress de la Cour et de Lady Anne Percival. En effet, cela n'était connu seulement que de ceux qui avaient été prévenus par la méchanceté de Sir Philip Bedley. Piqué de la manière dont Belinda l'avait reçue, il avait écouté son valet de chambre qui lui avait assuré, comme le sachant parfaitement de Champfort, homme de confiance de Lord de la Cour, que Miss Portman avait subjugué Milord, que cette jeune dame marchait à son but dans cette maison, que par prudence elle avait refusé de riches présents, mais qu'elle était assurée d'être la femme de Lord de la Cour s'il devenait veuf. Ce fut Sir Philip qui en parla à Clarence Hervé, et ce fut encore lui qui en instruisit Mistress Stanhope dans la lettre qu'il lui écrivit pour implorer sa faveur. Cette femme adroite répéta cette histoire comme universellement connue, afin d'engager sa nièce à céder aux instances du baronnet. Dans toute l'étendue de sa politique, l'imagination de Mistress Stanhope n'avait jamais prévu que sa nièce instruirait entièrement Lady de la Cour de tout ce qui se passait, et elle ne s'était point mise en garde contre ce danger. Elle ne pouvait juger Belinda si différente d'elle-même. Aussi son artifice et sa fausseté agirent contre ses propres vues et produisirent un effet diamétralement opposé à son attente. Ce fut l'exagération de cette histoire qui engagea Clarence Hervé à en parler à Belinda et qui fit croire à Lady de la Cour que cette histoire était publique. Ses propres soupçons, sa jalousie et sa rage furent tellement excités qu'elle ne fut plus maîtresse d'elle-même et qu'elle insulta son amie. Miss Portman fut alors obligée de faire ce que Mistress Stanhope craignait le plus, de quitter la maison de Lady de la Cour et tous ses avantages. Depuis la réception de la lettre de sa tante, jusqu'au moment où elle arriva à Oakley Park, Belinda ne pensa pas un moment à Sir Philip Beckley. Son parti était pris. Cependant, elle craignait que sa tante ne comprît pas ses raisons et désapprouva sa conduite. Elle lui donnait, dans le style le plus tendre et le plus respectueux, l'assurance qu'elle n'avait jamais soupçonnée elle-même, l'atroce calomnie dont elle était l'objet et qui la rendait si malheureuse, que lord de la Cour l'avait toujours traitée avec politesse et bienveillance et qu'elle était convaincue qu'il n'avait jamais conçu aucune des pensées qu'on lui attribuait, que la publicité de cette méchanceté avait cependant beaucoup affecté lady de la Cour. « Alors, écrivait Belinda, j'ai trouvé plus prudent de quitter Milady et d'accepter l'offre de lady Anne Percival de m'établir à Oakley Park. J'espère, ma chère tante, que vous ne trouverez pas mauvais que j'aie quitté la ville sans voir Sir Philip Bedley. En vérité, notre entrevue aurait été absolument inutile puisqu'il n'est pas en mon pouvoir de répondre à son sentiment. » La connaissance que j'ai de son caractère, de son esprit, de ses manières, me persuade que notre union ferait notre malheur mutuel. D'après ce que je vois dans le monde, rien ne pourra me décider à me marier par le motif trop commun de l'intérêt ou de l'ambition. » Quoique Belinda déclarât ses sentiments avec sincérité, elle ne s'appesantit pas sur ce sujet, ne voulant pas avoir l'air de braver l'opinion de sa tante à qui elle avait des obligations. Elle fut tentée de passer sous silence la lettre de Mistress Stanhope qui avait rapport à Clarence Hervey. Mais, après y avoir réfléchi, elle surmonta sa répugnance, voulant que la plus parfaite sincérité fût la règle inviolable de sa conduite. Elle lui avoua donc que, de toutes les personnes de sa connaissance, ce jeune homme était celui qui lui plaisait le plus. Mais elle l'assura en même temps que le refus qu'elle faisait des offres de Sir Philip Bedley n'était nullement l'effet de ses sentiments pour M. Hervey, qu'avant d'avoir reçu sa lettre, elle savait que M. Hervey était attaché à une autre femme. Elle finit en assurant sa tante qu'elle ne formait point de désir, qu'elle ne concevait point d'espérance romanesque et que son cœur était entièrement libre. En arrivant à Oakley Park, Belinda reçut la réponse suivante, où se peignait toute la colère de Mistress Stanhope. Puisque vous vous conduisez d'après vos propres idées, je ne vous ennuierai plus de mes avis. Refusez qui vous voudrez, allez où il vous conviendra. Choisissez vos amis, vos admirateurs, et établissez-vous comme vous le désirez. Je n'ai plus rien à vous dire, je m'en lave les mains. Je ne me mêlerai plus de conduire une jeune étourdie. Votre sœur a joliment répondu à ma bonté. Elle quitte son mari et en rejette tout le blâme sur moi. Il en sera de même pour vous. Votre cousine Saudrelle me refuse 100 guinées, quoiqu'elle sache que son piano et sa harpe m'en ont coûté le double et que, sans ces deux instruments, elle n'aurait jamais épousé Saudrelle. Quant à Mistress Lévy, elle ne m'écrit jamais et ne pense plus à moi, mais peu m'importe. Les papiers publics publient le mauvais état des affaires des Lévy. Je m'attends bien qu'elle aura la hardiesse de revenir à moi dans sa détresse, mais elle trouvera ma porte fermée. Votre cousine Valton s'est mariée comme une folle. Elle, son mari et tous ses parents sont en guerre ouverte. Valton mourra bientôt et lui laissera pour tout bien des affaires dans un état que Dieu seul connaît. Si elle m'eût consultée avant ce mariage, je viendrais à présent à son secours. Mais les passions aveuglent les jeunes gens et leur font perdre toute idée de bon sens, de reconnaissance et de véritable intérêt. C'est ce qui vous arrive, Belinda. Ne comptez pas cependant sur Clarence et Hervey. Mais adieu, je vous abandonne à vous-même. Je ne veux plus me mêler des affaires de jeunes personnes qui méprisent mes conseils. Célina Stanhope. Postscriptum, si vous voulez retourner chez Lady de la Cour et épouser Sir Philip Bedley, je vous promets d'oublier le passé. Le regret que sentit Belinda en voyant le courroux de sa tante fut adouci par le témoignage de sa conscience qui l'assurait qu'elle avait agi d'après les règles de la plus stricte délicatesse. D'ailleurs, sans le vouloir, Mistress Stanhope l'encourageait encore dans le parti qu'elle avait pris à l'égard de Sir Philip Bedley en lui parlant du malheur et de l'ingratitude de sa sœur et de ses cousines qui s'étaient toutes mariées avec les vues mercenaires que Belinda refusait d'adopter. Il est inutile de dire que Belinda ne retourna point chez Lady de la Cour, qu'elle ne revit point Sir Philip et qu'elle continua de rester à Oakley Park. L'aimable société qui y était réunie rendit bientôt le calme à l'esprit de Belinda. Elle était digne de sentir et de partager le bonheur dont jouissait cette charmante famille. La tendre confiance, la gaieté franche, la simplicité, le naturel qui régnait dans cette maison formait un contraste frappant avec le ton de celle de Lady de la Cour. M. Percival et Lady Anne étaient unis d'intérêts, d'occupations, de goûts et d'affections. Belinda fut d'abord surprise de la manière dont ils parlaient de leurs affaires en sa présence. Il n'y avait parmi eux aucun de ces petits mystères qui s'élèvent du peu d'accord des caractères et de l'envie de dominer. Dans la conversation, chacun exprimait librement ses désirs et ses opinions. Si l'on différait d'avis, la raison et la majorité étaient les seuls juges. La plus ancienne et la plus jeune partie de la famille étaient confondues dans le salon. Les enfants étaient mis au nombre de la société et avaient leur part et leur intérêt dans les occupations et les amusements. Ces enfants n'étaient traités ni en esclaves ni en jouets. On avait sur eux de l'autorité, ils y cédaient sans avoir l'air de s'en apercevoir. Jamais on n'entendait de ces ennuyeux et continuels sermons qui fatiguent, et ceux qui en sont l'objet, et ceux qui les font, et ceux qui les entendent. Sans violence et sans encouragement factice, le goût pour le travail et l'habitude de l'application étaient donnés par l'exemple et soutenus par le désir de plaire. M. Percival était également versé dans les sciences abstraites et dans la littérature. Il instruisait sa famille de la manière la plus intéressante et la plus amusante, soit en l'agrégeant à ses occupations, soit par sa conversation, que sa connaissance du monde et sa gaieté naturelle rendaient aussi utile qu'agréable. Des badinages les plus légers, il avait l'art de conduire aux résultats les plus abstraits et savait reposer l'esprit en le ramenant aux agréments de la littérature et perfectionner le cœur par des leçons de la philosophie. Lady Anne Percival, sans pédanterie et sans ostentation, réunissait à des connaissances très étendues le goût le plus délicat. Son mari l'associait à ses études et elle était l'orgueil de son esprit comme l'orgueil de son cœur. Il pouvait causer avec elle des choses les plus abstraites et il n'était pas obligé de s'isoler pour s'appliquer à l'étude d'aucune science. Celle qui partageait ses plus tendres affections partageait aussi ses plus sérieuses occupations. Son approbation et les succès journaliers de l'éducation de ses enfants l'encourageaient dans ses travaux et excitaient en lui cette heureuse énergie si utile à la société, ignorée du triste célibataire et inconnue à l'égoïsme qui place et cherche sa félicité dans lui-même et qui ne la trouve pas. Parmi cette heureuse et nombreuse famille, les goûts n'étaient pas uniformes. L'un des garçons aimait la chimie, un autre le jardinage. L'une des filles avait le goût de la peinture, une autre celui de la musique. La variété de leurs talents augmentait leur bonheur, car il n'existait parmi eux ni jalousie ni envie. Ceux qui n'ont jamais joui de cette douce félicité de la vie domestique en supposeront peut-être la description ou chimérique ou romanesque. Ceux dont les goûts ont été émoussés par la dissipation trouveront ces plaisirs froids ou insipides. Mais le plus grand nombre de mes lecteurs sentira, je l'espère, la vérité de ce tableau. On ne juge de ce qui peut nous rendre heureux qu'en comparant les différentes impressions que le cœur a reçues dans différentes situations. Belinda fut bientôt convaincue qu'un heureux intérieur pouvait seul la satisfaire constamment. Elle ne trouvait à Oakley Park aucun de ses plaisirs bruyants, aucune de ses nombreuses sociétés auxquelles elle avait été accoutumée chez Lady de la Cour. Cependant, chaque jour s'écoulait agréablement, et elle oubliait qu'une très petite distance la séparait de Harrogate, lieu à la mode pendant la saison des eaux. Il y avait à peine une semaine que Belinda était à Oakley Park lorsqu'elle y vit arriver M. Vincent. Il était créole et n'avait que 22 ans. Sa personne et ses manières avaient quelque chose d'attrayant. Il était grand et remarquablement beau. Il avait de grands yeux noirs, le nez aquilin, des cheveux et des sourcils noirs. Son abord était franc et amical, et lorsqu'il causait sur un sujet intéressant, il s'animait et parlait avec feu. Sa conversation était accompagnée de beaucoup de gestes, comme celle des jeunes gens qui ont peu d'usage du monde. Son caractère était ardent et franc, incapable de dissimulation. Il connaissait si peu les hommes qu'il pouvait à peine croire que la fausseté existât dans le monde, même quand il en était la victime. Si l'on citait un trait de bassesse d'un gentilhomme, son étonnement était extrême, car il regardait l'honneur et la générosité presque comme le privilège exclusif de la noblesse. Ses opinions étaient extrêmement aristocratiques. Il avait de l'orgueil et jamais d'insolence. Son esprit s'abandonnait aux préjugés et rarement il raisonnait. Cependant, il était philosophe sans le savoir, puisqu'il jouissait du présent sans être troublé par le regret du passé, ni malheureux par la crainte de l'avenir. Il se livrait au plaisir en épicurien et bravait le malheur avec une indifférence stoïque. Son humeur était toujours égale et riante. Les personnes d'un caractère froid et réservé auraient pu l'accuser d'égoïsme, car il parlait avec enthousiasme de ce qu'il aimait, de son chien, de son cheval, de son pays. Son cœur espérait obtenir de la sympathie de tout ce qui l'entourait, jugeant les autres d'après lui. Il était aussi reconnaissant que généreux, et malgré l'indépendance de son esprit, il se soumettait avec douceur à la voix d'un ami et écoutait avec déférence les conseils de ceux dont le jugement supérieur avait gagné sa confiance. La reconnaissance, le respect, l'affection, tout conspirait à donner à M. Percival les droits les plus forts sur son âme. M. Percival lui avait servi de père lorsque le sien, en mourant, l'envoya en Angleterre pour y être élevé, en priant M. Percival, son ami, d'être le tuteur de son fils. L'attachement du jeune Vincent pour lui s'accrut avec son âge, et lorsqu'il fut majeur, il eut toujours pour M. Percival les sentiments du fils le plus tendre. M. Vincent était à Harrogate lorsqu'il apprit l'arrivée de M. Percival à Oakley Park. Il quitta tous les plaisirs pour aller rejoindre l'heureuse famille. Belinda ne parut pas d'abord le frapper. Il trouva son teint trop animé et pas assez de langueur dans ses yeux. Il avoua qu'elle était remplie de grâce, mais qu'elle avait trop de vivacité pour lui plaire. Il est singulier que Henriette Freck, l'ancienne amie de Lady de la Cour, soit la première cause de l'opinion favorable que M. Vincent conçut de Belinda. Il avait pour domestique un nègre, nommé Juba, qui lui était extrêmement attaché. Pendant le séjour de M. Vincent à Harrogate, il habita la même maison que Mrs. Freck. Une dispute s'éleva entre leurs domestiques au sujet d'une remise que chacun voulait avoir. Juba prit pour juge le maître de l'auberge. Il soutint avec feu les droits de son maître et conduisit sa voiture en triomphe dans la remise. Mrs. Freck, qui entendit par sa fenêtre toute la querelle, jura qu'elle ferait repentir Juba de ce qu'elle appelait son insolence. Elle fit cette menace assez haut pour que Juba la regardât, étonnée qu'une telle voix fût celle d'une femme. Mais, l'oubliant aussitôt, il courut danser, à la mode de son pays, devant la remise, en réjouissance de sa victoire. Mrs. Freck, dont la colère augmenta, répéta trois fois ses menaces et se retira en fermant sa fenêtre avec violence. M. Vincent, à qui Juba raconta tout ce qui s'était passé, s'amusa beaucoup de la manière dont il contrefit les gestes de ce qu'il appelait l'homme-femme. C'est le nom qu'il donnait à Mrs. Freck. Quelque temps après, Juba perdit son enjouement. On ne l'entendait plus ni chanter ni siffler et il parlait à peine. Son maître fut surpris de le voir subitement devenir mélancolique, taciturne. Il le questionna sur son changement. Juba parut extrêmement sensible à l'intérêt que lui témoigna son maître. Mais on ne put tirer de lui aucune explication de ce qui lui arrivait. M. Vincent savait qu'il aimait passionnément la musique. Il lui acheta un tambourin, mais Juba n'en joua pas. Son humeur sombre semblait augmenter chaque jour. Ils quittèrent Harrogate. À peine eurent-ils été une semaine à Oakley Park qu'on entendait Juba chanter, siffler et parler comme à son ordinaire. Son maître l'en félicita. Un soir, il lui ordonna d'aller à Harrogate chercher son tambourin pour le faire entendre au petit Charles Percival qui le désirait. En écoutant son maître, Juba parut pétrifié. Il commença à trembler de la tête aux pieds et regarda fixement M. Vincent. Puis tout à coup, joignant les mains, il se jeta à genoux en disant « Oh maître, mort pour Juba si Juba s'en va, mort pour Juba !» Et il fondit en larmes. « Moi, irai si maître veut. Moi, veux bien mourir. » M. Vincent commença à croire qu'il était fou. Il assura avec bonté qu'il exposerait plutôt sa propre vie que celle d'un aussi fidèle serviteur. Mais il le pressa de lui expliquer quel danger il redoutait en retournant à Harrogate. Juba garda le silence avec effroi. « N'aie donc point peur de me parler, lui dit M. Vincent. Je te défendrai si l'on veut te faire du mal. » « Confie-moi tes craintes, je te protégerai. »« Oh, maître, vous pouvoir pas, moi mourir si je m'en vais. Moi, pouvoir pas dire un mot de plus !» Et mettant un doigt sur sa bouche, il secoua la tête. M. Vincent savait que Juba était extrêmement superstitieux, et soupçonnant que cette secrète terreur n'était qu'un effet de son imagination, il prit un air grave en l'assurant qu'il trouverait extrêmement mauvais qu'il persistât dans ce silence obstiné. Juba, intimidé, fondit en larmes et répondit « Je vous dirai tout !» Cette conversation s'était passée dans le parc devant Miss Portman et Charles Percival. Belinda, voyant que Juba désirait parler seul à son maître, se retira et le pauvre garçon, quoiqu'avec une sorte d'horreur et de répugnance, avoua que la figure d'une vieille femme lui était apparue au milieu des flammes chaque nuit dans la chambre où il couchait à Harrogate et qu'il était sûr que c'était une des sorcières de son pays qu'il avait poursuivie en Europe pour se venger de ce qu'il s'était, dans son enfance, moqué de leur pouvoir. L'extrême absurdité de cette histoire fit d'abord rire M. Vincent. Mais son humanité lui rendit bientôt son sérieux. Il plaignit cette pauvre victime de la superstition qui regardait une apparition comme un arrêt de mort. Juba ajouta qu'il savait bien que la sorcière ne lui pardonnerait pas d'avoir révélé son secret. Et avec l'air du plus profond chagrin, il souhaita de mourir au moins avant la nuit pour ne pas la revoir davantage. Il ajouta que cette même figure lui était apparue dans la remise, qu'elle l'avait laissé tranquille depuis qu'il avait quitté Harrogate, mais qu'en y retournant, il était sûr qu'elle le tuerait. M. Vincent connaissait le pouvoir étonnant que la crainte des sorciers avait sur l'esprit des nègres de la Jamaïque. Il consola donc Juba sans essayer de combattre sa folie. La première personne qu'il rencontra après cette conversation fut Belinda, à qui il rendit un compte exact. Dès qu'elle entendit parler de l'apparition au milieu des flammes, elle se ressouvint des effets du phosphore dont elle s'était amusée étant enfant, et elle imagina que quelques personnes mal intentionnées avaient pu se servir de ce moyen pour intimider et tourmenter ce nègre ignorant. Lorsque M. Vincent lui répéta les menaces de Mistress Freck, Belinda, qui connaissait le caractère de cette femme, ne douta pas que ce ne fût un de ces badinages qu'elle appelait ses gaietés. Miss Portman proposa d'essayer de faire paraître, à l'aide du phosphore, un semblable fantôme à Judas, afin de juger s'il en serait aussi effrayé. L'expérience fut donc faite la nuit même, au pied du lit de Juba, qui, le lendemain, en parla avec une nouvelle terreur à son maître, l'assurant qu'il avait revu la sorcière. Belinda, alors, lui fit montrer le phosphore par un des enfants et fit dessiner et paraître en sa présence plusieurs figures grotesques. Cette expérience eut le succès qu'elle désirait. Juba se familiarisa par degrés avec l'objet de sa secrète horreur et, convaincu qu'aucune sorcière n'exerçait contre lui ses enchantements, il retrouva et la santé et la gaieté. Sa reconnaissance pour Miss Portman fut aussi simple et aussi touchante dans son expression qu'elle fut vive et sincère. M. Vincent, dès ce jour, s'occupa particulièrement de Belinda. On examina la chambre du nègre à Harrogate et on découvrit sur la muraille les traces du phosphore, ce qui acheva d'éclairer le pauvre Juba. Lorsque Mistress Freck avait vu réussir son projet, elle raconta ce méchant tour à qui voulut l'entendre, en se vantant d'avoir chassé de la maison le maître et le valet. Cet exploit ne fut cependant nullement agréable à Mistress Luttridge. Elle avait des vues sur M. Vincent. La conduite de Mistress Freck excita donc son courroux. Ces dames eurent ensemble une explication, et Mistress Freck, découvrant par là les vrais sentiments de Mistress Luttridge, changea de ton et déclara qu'elle se chargeait du retour de M. Vincent, qu'elle en connaissait le moyen, qu'il fallait, pour le fixer dans leur société, inviter Belinda. Sans doute, dit Mistress Freck, elle est ennuyée à la mort des stupides habitants d'Oakley Park. Jamais une femme ne manque d'excuses pour faire ce qu'elle désire. Aussi, rapportons-nous-en à elle pour faire des adieux au Percival. Elle seule peut retenir chez eux M. Vincent. Quand nous aurons l'une, nous aurons donc l'autre. Je suis sûre qu'elle s'est querellée avec Lady de la Cour. J'ai su toute l'histoire par ma femme de chambre qui la tient de Champfort. Elles sont à couteau tiré ensemble et ce sera délicieux de l'entendre parler d'elle. Étant les ennemis déclarés de son ennemi, nous ne pouvons pas manquer d'être ses amis. Rien n'unit les fous si promptement et si solidement qu'une haine commune. » Après ce discours, qui persuada Mistress Luttridge, Mistress Freke mit son projet à exécution. Elle monta dans son phaéton avec son uniforme de chasse et alla rendre visite à Miss Portman. Elle ne connaissait ni M. Percival ni sa femme, et elle avait toujours traité Belinda très légèrement, comme la complaisante de Lady de la Cour. Mais il ne lui coûtait rien de changer de ton. Elle était de ces femmes qui ne suivent de loin que celles de leur plaisir ou de leur intérêt.